Nous avons vu ensemble la semaine dernière que l'un des freins à une vie de prière profonde et vivante résidait dans le fait que nous localisions souvent Dieu dans les nuages, quelque part dans les étoiles, dans un endroit se situant entre Vénus et le Soleil, autrement dit loin, très loin de nous. J'aimerais aborder avec vous aujourd'hui une autre difficulté. Beaucoup de personnes m'ont raconté que leur vie de prière était aussi captivante qu'un débat politique, qu'un soir d'élection, si vous voyez à quoi je veux faire référence, et que les seuls moments où elles priaient vraiment, c'était lorsque les choses allaient vraiment mal, quand la situation semblait totalement désespérée, qu'elles estimaient n'avoir aucune possibilité d'influer sur la situation en question, de quelque manière que ce soit. En fait, le désespoir a constitué de tout temps le véritable point de départ de la vie de prière de beaucoup de personnes. En dehors des temps de crise, par contre, nous ne prions pas, ou pas vraiment, car nous préférons nous reposer sur notre intelligence et nos propres forces. Alors, ce qui était intéressant, parce que ça l'est, dans cette façon de fonctionner, c'est que ça nous dit quelque chose de ce que nous croyons véritablement concernant la prière. En fait, je crois que ça veut dire une chose en particulier. Dans les moments ordinaires de nos vies, nous croyons que la prière ne change pas vraiment les choses. Pour le dire autrement, que prier, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. De nombreuses personnes pensent que leurs prières ne changeront pas ce que Dieu a décidé, alors à quoi bon prier ? On entre alors dans une forme de fatalisme, même si on ne s'en rend pas compte, et le fatalisme, croyez-moi, n'a jamais poussé personne à prier. Voilà ce que dit Dallas Willard, décédé il y a 3-4 ans d'ailleurs, un penseur et philosophe chrétien américain. L'idée que tout se passerait exactement de la même manière que nous prions ou pas est un spectre qui entre les esprits de nombreuses personnes confessant sincèrement croire en Dieu. Cela rend la prière psychologiquement impossible, la remplaçant au mieux par un rituel moribond. Alors on va tenter aujourd'hui de résoudre cette équation en prenant un premier texte. Dans ce genre de cas, quand on se pose devant ce type de questionnement, il faut toujours revenir à l'Écriture. Ça n'est pas très compliqué. Premier texte dans le dernier livre de la Bible, en Apocalypse. Vous savez, ce livre où on passe quasi toutes ses journées. On adore. J'ai jamais entendu personne dire que l'Apocalypse était son livre préféré dans la Bible. C'est étrange. Apocalypse 8, versets 1 à 5. Quand l'agneau ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Ce verset a poussé certains théologiens à dire qu'il n'y aurait pas de femme au ciel et que c'en était la preuve. Je ferme la parenthèse. Puis je vis les sept anges qui se tiennent debout devant Dieu. Sept trompettes leur furent données. Un autre ange vint, il se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs, et un tremblement de terre. Alors, les éclairs, le tonnerre, etc., c'est sur la terre, bien entendu. Alors quand on lit ça, si on n'y prête pas attention, on va en fait passer à côté de ce que moi j'estime être essentiel dans ce passage. L'apôtre Jean décrit ici ce qui se passe dans la dimension hors du temps et de l'espace où Dieu réside. Les sceaux du rouleau ont été brisés, sur ce rouleau se trouvent symboliquement inscrits tous les crimes, la violence et les péchés perpétrés par l'homme sur la terre. Et le jugement de Dieu par rapport à tous ces actes. Penser que tout ce qui se passe sur la terre, Dieu n'est pas au courant et ne juge pas et ne va pas juger ces actes, c'est être vraiment très naïf. C'est alors qu'une chose étonnante se produit. Jean nous dit qu'il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Pour ceux qui cultivent un peu le silence, rester en silence une demi-heure, c'est pas mal déjà, c'est beaucoup. Une demi-heure de silence, c'est pas rien. Et pendant ce temps de silence, on peut donc penser en silence, lui aussi, un ange tenant un encensoir en or, je ne sais pas s'il faisait comme ça ou comme ça, peu importe, s'approche de l'autel et fait une offrande d'encens. Et l'encens, dans la symbolique de ce texte, représente les prières venant de la terre. Alors, qui prie sur la terre à ce moment-là ? Les enfants de Dieu. OK ? On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Et après ça, après cette offrande, de grands actes de jugement tombent, interviennent sur la terre, avec force de description du tonnerre, des éclairs et des tremblements de terre. Donc ce qui est le plus frappant, à mon sens en tout cas et en rapport avec la prière, c'est que ces actes de jugement sont la réponse aux prières des saints. C'est parce qu'à ce moment-là, des saints, donc des chrétiens, prient que Dieu envoie ses jugements sur la terre. Alors, en règle générale, nous avons tendance à penser que ce sont les événements se passant sur terre qui sont interrompus à cause d'actions et de décisions prises au ciel. Alors, c'est juste, hein, évidemment. J'ai envie de dire qu'à 95-99% du temps, bon, je vais même dire, et ça va être compliqué à intégrer, mais il faut vraiment l'intégrer, à 100% du temps, c'est Dieu qui décide, tout le temps. Même quand on a l'impression qu'il ne fait rien, ce « je ne fais rien » ou « il ne fait rien » correspond à sa volonté de l'instant pour le monde sur lequel, dans lequel nous vivons. Néanmoins, ce texte semble nous dire exactement l'inverse. C'est parce que des choses sur la terre se passent et que des gens prient que le ciel répond et que les choses changent. Les cieux font silence pendant une demi-heure. Autrement dit, il faut quand même comprendre ce que ça veut dire. Le chant des anges, la louange et les cantiques qui résonnent à l'infini à la gloire de Dieu s'interrompent. Au moment où je parle, il n'y a pas de silence au ciel. Hein. Les anges chantent en permanence la louange de Dieu, chantent l'adoration de Dieu. Il n'y a pas de silence au ciel, c'est un cantique perpétuel. Hein. Et là, j'en dis une demi-heure, ouf, tout s'arrête dans le ciel. Il n'y a plus de louanges, il n'y a plus de cantiques. Les anges se taisent. Pourquoi ? Ben c'est simple. Parce que quelques-uns prient. Ça vous dit rien, ça ? Il y a des chrétiens qui prient et la louange au ciel s'arrête. Le paradis s'arrête afin que les prières des saints, vos prières, mes prières, chacune d'elles puisse s'élever devant Dieu. Elles sont entendues, autrement dit, vos prières comptent. Elles ont du poids aux yeux de Dieu. Alors, il faut équilibrer, hein, bien entendu, comme toujours. Hein. Ça ne veut pas dire que toute l'activité céleste s'arrête systématiquement quand un enfant de Dieu prie. Sur l'ensemble des chrétiens sur la planète, il y en a bien un moment qui prie. Alors, si chaque fois qu'un chrétien prie, le ciel doit s'arrêter, les anges vont être au chômage très vite. Donc, ça ne veut pas dire que toute l'activité céleste s'arrête systématiquement quand un enfant de Dieu prie. Les événements, il faut quand même replacer dans le contexte, les événements relatés par Jean sont dramatiques et les prières de ces hommes et femmes sont totalement dénuées d'égocentrisme. C'est parce que la violence et les péchés des hommes sur la terre à ce moment-là atteignent leur paroxysme que des chrétiens sont dans l'intercession quasi 24 heures sur 24. Donc, ces prières-là sont totalement dirigées vers Dieu et sa volonté et pas vers eux. Ces gens sont dans le combat spirituel, dans la réalité profonde de la vie chrétienne. Ils ne prient pas pour des futilités. Le contexte dépeint par Jean est solennel. On parle du jugement de Dieu tout de même. Des chrétiens qui n'en peuvent plus, ils disent « Seigneur, interviens, on n'en peut plus. » quoi. Mais il n'en reste pas moins une chose terriblement importante. Les prières d'hommes et de femmes, d'êtres humains tels que vous et moi, comptent. Elles comptent même tellement qu'elles interrompent parfois l'activité du ciel. Et dans notre passage du livre de l'Apocalypse, ce qui se passe ensuite sur la terre arrive parce que quelques-uns ont prié et que Dieu a entendu leurs prières. Et je pense vraiment que c'est ça, à travers ces 5 versets, d'autres choses bien sûr, hein, mais c'est ça en tout cas en rapport avec la prière que Jean veut nous transmettre à travers les siècles, lui, je le rappelle, qui a eu cette révélation de l'Apocalypse, de ce qui doit arriver, parce qu'il priait. C'est quand il était en prière que Jean a reçu cette révélation. Donc l'histoire appartient aux intercesseurs, à ceux qui croient, qui prient et font advenir le futur. Je n'aime pas dire ce que je vais dire, parce que je me sens concerné aussi, évidemment, je ne suis pas meilleur que vous, et certainement pas dans le domaine de la prière, malheureusement. C'est pour ça qu'il faut lier la prière à la foi. Si on ne prie pas, on ne croit pas. Si on n'a pas de temps personnel avec Dieu, on vit sa vie sans Dieu. On vit, comme le disait Greg Rochelle, je pense, c'est le titre d'un de ses livres, on vit comme des chrétiens athées. On dit qu'on croit en Dieu, mais on vit comme si Dieu n'existait pas. Ce que nous dit ce texte de l'Apocalypse, et ça doit nous faire du bien, du moins j'espère, c'est que l'histoire n'appartient pas aux puissants, ici-bas, aux riches, aux dirigeants, aux armées, aux corporations, aux empires médiatiques, à tout ce que vous voulez, tout ce que l'homme peut produire. En fait, ils ont l'impression de maîtriser, ils ont l'impression de diriger, mais ils ne maîtrisent rien et ils ne dirigent rien. Alors, il est évident que les agissements de toutes ces personnes peuvent paraître impressionnants pour un temps, mais le jour viendra où toutes les actions purement humaines des hommes seront oubliées et jetées sur un tas de cendres. En réfléchissant à ça, je me suis dit que s'il fallait donner un argument pour remettre l'importance de la prière en avant, ce serait de nous poser la question de savoir ce que Jésus fait depuis qu'il est parti rejoindre son Père à sa droite, depuis l'ascension. Qu'est-ce qu'il fait Jésus depuis ce temps-là? C'est Paul qui dit ça en Romains 8. Pour rassurer ses frères chrétiens à Rome, qui sont aussi qui vivent des moments pathétiques. Il parle des chrétiens. Qui les condamnera? Qui condamnera les chrétiens? Qui? Et Paul, comme argument, dit simplement Jésus est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous, il prie pour nous. Ça fait 2000 ans que le Christ est en prière. C'est important la prière, vous croyez? Apparemment, pour Jésus, c'est solidement important la prière. Ça l'était lors de son passage sur cette terre et ça l'est encore aujourd'hui. Son ministère terrestre a duré 3 ans. Son ministère d'intercession dure depuis plus de 2000 ans. Si les autres arguments ne font pas mouche, j'espère que celui-là fera réfléchir au moins. Alors même si cela peut faire surgir certaines questions que nous aborderons dans un message ultérieur, l'enseignement biblique concernant la prière nous mène à une merveilleuse et écrasante conclusion. La prière change les choses. Ça fait bouger les lignes. Alors la première prière d'intercession que nous ayons dans le texte biblique est celle bien connue, je crois, d'Abraham. Rappelez d'Abraham quand même un petit peu. Intercédant pour les justes, entre guillemets, de la ville de Sodome et Gomorre, de sinistre mémoire. On va prendre ce texte en Genèse. On a commencé par l'Apocalypse, maintenant on rebobine jusqu'au premier livre de la Bible. Vous noterez au passage la cohérence. Dieu a dit à Abraham qu'il allait détruire la ville de Sodome et Gomorre parce que leur péché a atteint un paroxysme qu'il ne peut plus tolérer. Abraham s'approcha et dit, « Supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Les supprimeras-tu aussi et ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste sera identique à celui du méchant, cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Celui qui juge toute la terre n'appliquera-t-il pas le droit ?» Et culotté Abraham quand même, de faire un cours de justice à Dieu. Je ne sais pas si j'aurais osé, moi. Tu veux faire quoi? Déjà, j'aurais été flatté qu'ils me le disent. Ah, je compte détruire Braine-l'Alleud. C'est une super idée, ça, quand même, Seigneur. C'est une bonne idée avec toutes les cloches qui se promènent dans les rues, là. C'est une super idée, quoi. Abraham, il ne fonctionne pas comme ça. Il intercède. Donc, si vous voulez, il se place entre Dieu et sa volonté. Entre Dieu et ce qu'il a décidé de faire. Alors, je l'ai dit, on connaît bien cette histoire, mais ce qui est très surprenant, me semble-t-il, ce sont les arguments qu'Abraham avance pour justifier sa demande et de quelle manière il se mobilise pour le faire. Il fait appel à la justice de Dieu, à ce qu'il sait de Dieu, à ce qu'il a appris de Dieu. Et il sait que Dieu ne condamne pas le coupable avec l'innocent, en tout cas avec le juste. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne lâche pas le morceau, parce qu'il ne va pas s'arrêter là. Après 5 ans, on dit, oui, mais s'il reste autant de justes, et puis je crois qu'il va aller jusqu'à 10. Oui, mais Seigneur, s'il y a 10 justes, il ne va quand même pas détruire cette ville. Alors, on connaît la fin, normalement. Abraham ira jusqu'à invoquer la miséricorde de Dieu si seulement 10 justes se trouvent dans la ville. Et Dieu dit, ben, s'il y en a 10, il ne la détruirait pas, la ville. Malheureusement, il n'y en a même pas 10. Alors, on sait que Dieu épingra finalement la famille de Lot, le neveu d'Abraham, si ma mémoire est bonne. Même s'ils ne seront en définitive que 3 à être sauvés, Lot et ses 2 filles, puisque la maman n'oubliera pas à l'ange, vous rappelez, se retournera pour regarder Sodome et Gomorre et sera transformée en statue de sel. Dieu a donc détruit la ville. Tout en respectant sa promesse, il n'y avait pas dit juste, donc il n'y a pas dit juste, moi je détruis la ville. Mais il a également sauvé le seul juste qui s'y trouvait, Lot. Il y avait un juste, il a sauvé le juste. Ça a toujours été l'intention de Dieu de sauver le juste. Donc ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'Abraham a rejoint dans sa prière le cœur de Dieu. Vous ne croyez quand même pas qu'Abraham est plus miséricordieux que Dieu. Hein? Ne vous dites jamais quand vous intercédez pour quelqu'un qui a fait des bêtises que vous êtes plus miséricordieux que le Christ. Il faut rester raisonnable dans sa prière. Abraham, connaissant Dieu, étant son intime, a rejoint le cœur de Dieu. Et c'est aussi ce qui signifie, pour nous, prier dans le nom de Jésus. J'ai souvent dit, mais je l'ai répété, puisqu'on parle de prière, c'est l'occasion de le répéter encore une fois, de taper sur le clou. Quand vous terminez votre prière par « au nom de Jésus » ou « au nom du Christ », ça ne valide pas votre prière. Prier au nom du Christ, c'est prier comme le Christ. C'est d'avoir les mêmes priorités que lui, la même volonté que lui, le même désir que lui. Et son désir profond à Jésus, c'était de faire la volonté de son Père. Et là, la promesse tombe. Vous serez exaucé, à bâton d'avis. Si vous priez de manière égocentrique, et vous me déterminez en disant « au nom de Jésus », vous n'aurez aucune réponse. Ça, c'est garanti. Il faut donc avoir les mêmes priorités que Dieu lorsque l'on prie Dieu pour être exaucé par Dieu. D'après Walter Wink, un éminent intellectuel et théologien américain, la morale de cette histoire, donc de cette histoire d'Abraham qui intercède, c'est que ça paye de marchander avec Dieu. Marchander dans le sens, on s'accroche, on ne lâche pas le morceau. Et je pense qu'il a raison dans le sens où quand on a une petite connaissance biblique, il n'y a pas d'exemple, à mon avis, dans la Bible de prière servile, flatteuse. Au contraire, la prière biblique est impertinente, combative, effrontée, parfois même inconvenante. Pensez à Jérémie dans les Lamentations, quand il dit à Dieu, « Tu m'as trompé, tu as cassé mes dents avec des cailloux. » Ce n'est pas très flatteur, ça, quand même, comme prière. Relisez les psaumes. Les psaumes sont là pourquoi? Pour, ce que j'ai souvent dit, pour nous dire... Même quand ça va mal, intérieurement, même quand ça va mal dans nos vies, il vaut mieux empoigner Dieu que lui tourner le dos. Il faut mieux se battre avec, parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on n'est pas d'accord, que lui dire oh, c'est comme ça, ciao. La prière selon la Bible ressemble donc plus, dans l'ensemble, à un marchandage dans un bazar oriental qu'à souvent la petite prière polie qu'on entend monter dans la plupart des églises. Des prières bien propres sur elles. La prière, mes amis, change les choses. Ça, il faut vraiment vous foutre dans la tête. Et dans la mienne, pendant que vous y êtes. Foutez-la moi dans la mienne aussi. Thomas Merton, moine, si, ça existe. Il est aussi malheureusement décédé dans un accident de voiture. Un immense intellectuel aussi, qui a écrit pour moi probablement les 3 livres les plus importants sur la vie contemplative. Thomas Merton explique que lorsqu'il n'était encore qu'un jeune prodige littéraire, il avait passé quelques jours dans un monastère. et il fut frappé par la différence de rythme de vie, de la vie de ces jeunes consacrés qui avaient consacré leur vie à prier. Et à la suite de cette première expérience dans ce monastère, il a déclaré « Ces hommes, donc les moines, font pour leur pays ce qu'aucune armée, aucun congrès, aucun président ne fait. Ils gagnent pour lui la grâce, la protection et l'amitié de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils intercèdent. » C'est la même dimension quand Paul dit de prier pour les autorités, ce que je ne fais quasi jamais, pour être honnête avec vous. Parce que pour moi, malheureusement, je me dis simplement « Seigneur, je ne vais quand même pas prier pour cette bande de crétins. » quoi. Mais c'est une catastrophe de penser ça. Parce que s'ils sont aussi crétins que ça, vous justement priez pour eux, quoi, pour qu'ils le soient un peu moins, si c'est possible. Vous ne savez pas combien de personnes ont été fortifiées parce que vous avez demandé à Dieu de les encourager. Parfois, on ne sait pas. Ni combien de personnes ont été guéries parce que vous avez prié pour leur corps. Ni combien de fugueurs spirituels sont revenus à la maison parce que vous avez prié pour leur âme, pour leurs âmes. Parce que vous avez intercédé en vous appuyant sur ce que vous saviez de la miséricorde de Dieu. Que sa miséricorde, pour reciter Jérémie, n'est pas épuisée, que ses bontés ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Vous avez une journée catastrophique, ben, il y a un jour demain. Et Dieu sera là dès le matin avec vous. Il y a une chose que nous devons vraiment savoir et dont nous devons être sûrs si nous voulons apprendre à prier, c'est que l'histoire appartient à ceux qui prient. Dietrich Bonhoeffer, que je cite souvent, ce théologien allemand qui est mort dans un camp de concentration en 1943, je pense, a écrit « La prière pour les autres est le bain de purification que chacun d'entre nous et la communauté devons prendre tous les jours. » Je trouve ça très beau, surtout très juste. Parce qu'en priant pour les autres régulièrement, on se purifie de son égoïsme. On arrête de penser qu'à soi. Parce qu'en priant pour les autres, on apprend à mieux connaître cet autre que Dieu aime tant. Parce qu'en priant pour les autres, on apprend à se rapprocher du cœur de Dieu. Parce que l'amour véritable naît dans la prière. Tony Campolo, c'est lui, un pasteur sociologue et ancien conseiller du président américain Bill Clinton, ça c'était plutôt raté, raconte ce qui lui est un jour arrivé lors d'une réunion de prière. Il avait été invité à prêcher dans une église pentecôtiste et avant qu'il ne prenne la parole, mais c'est vrai dans les églises non pentecôtistes aussi souvent, avant qu'il ne prenne la parole, il se retrouve dans une pièce avec 8 autres hommes en train de prier pour lui. Alors ce qu'il faut savoir, il explique, c'est qu'il est à genoux et les autres lui imposent les mains, en espérant qu'il les ait lavés avant. Ça, c'est un autre problème. Donc, il pose tous les 8 leurs mains sur sa tête et il explique que, à force que cette prière dure dans le temps, ils sont pentecôtistes, donc ça dure, les mains s'appesantissent sur sa tête. Donc, il commence à vraiment fatiguer solidement. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, explique-t-il, c'est qu'un des 8 hommes ne prie même pas pour lui. Il prie pour un certain Charlie Stolfus. Seigneur, je cite, Seigneur, tu connais Charlie Stolfus. Il vit dans cette caravane argentée à 2 kilomètres d'ici. Tu vois la caravane, Seigneur, celle au bout de la route, sur la droite. Là, Denis se dit, il faudrait peut-être que j'explique à ce gars qu'il n'est pas obligé de donner des détails pareils à Dieu, il sait, quoi. Et ça écourterait la prière aussi, parce que mes cervicales sont en train de lâcher. Seigneur, Charlie m'a dit ce matin qu'il allait quitter sa femme et ses 3 enfants. Fais quelque chose, Seigneur. Recolle les morceaux de cette famille. Alors Tony s'est finalement libéré du poids sur sa tête, a délivré son message, est remonté dans sa voiture et a repris la route pour rentrer chez lui. Il est à peine au volant qu'en roulant sur la nationale, il remarque un autostoppeur. Et comme c'est un pasteur gentil, il se dit, je vais le prendre, quoi. Il fait monter le gars à bord et c'est là que je lui laisse la parole. Après avoir roulé quelques minutes, je décide de faire les présentations. Bonjour, je m'appelle Tony Campolo. Et vous, Et le gars répond, mon nom est Charlie Stolfus. Et là, le gars dit, intérieurement, je n'arrivais pas à y croire, en fait, que j'avais chargé Charlie Stolfus, pour qui on avait prié 3 ans avant. J'ai pris la première bretelle de sortie et j'ai fait demi-tour. Le gars était un peu mal à l'aise avec cette manœuvre et après quelques minutes, il m'a demandé, monsieur, où me conduisez-vous ? Parce que ce n'est pas le chemin. Et je lui ai répondu, je vous conduis à la maison. Et là, le gars m'a regardé avec des yeux exorbités. Il dit, mais pourquoi ? Parce que tu viens juste d'abandonner ta femme et tes 3 enfants. Voilà pourquoi. Alors bien sûr, le gars est soufflé. Il se dit, mais comment est-ce qu'il est au courant, quoi ? Là, il s'est recroquevillé dans son siège, il a pu péter un mot, jusqu'au moment où le gars, c'est le fameux pasteur, s'est garé devant la caravane argentée. Déjà là, le gars repose une deuxième question. Mais comment savez-vous que j'habite ici ? Réponse, Dieu me l'a dit. Quand il a ouvert la porte de la caravane, sa femme s'est exclamée, oh, tu es de retour. Et là, il a chuchoté quelque chose à l'oreille de sa femme. Et au plus il parlait, au plus les yeux de la femme s'agrandissaient. Forcément, vous imaginez, il m'a pris en stop, il savait que j'étais marié avec toi, que je te quittais, qu'on avait 3 enfants, il savait même où on habitait. Et quand je lui ai posé la question, comment ça se fait, vous savez où j'habite, il m'a répondu, c'est Dieu qui me l'a dit. C'est alors que moi, je leur ai dit à tous les deux, vous vous asseyez tous les deux, je vais parler, et vous, vous allez écouter. Et le pasteur rajoute, je n'ai jamais senti autant de respect pour une parole que j'allais prononcer. Et cet après-midi-là, c'est comme ça qu'il termine, j'ai mené ces 2 jeunes gens au Christ. Alors, bien entendu, il n'est pas très courant, du moins selon mon expérience, d'avoir la réponse à ces prières d'une façon aussi dramatique. Mais là n'est pas la question. L'important, c'est que Jésus a parlé de la prière, il a parlé de l'intercession. Et on pourrait résumer son enseignement sur le sujet par un mot, un seul, parce que Jésus nous connaît. Persévérance. Si vous pensez que la vie de prière est une sinécure, vous allez être très vite déçu. C'est un combat. Et dans mon expérience, malheureusement, c'est un combat qu'on perd souvent. La persévérance, on a vraiment du mal avec ça. Jésus a parlé de la prière en usant de paraboles qui parlaient, par exemple, d'une veuve têtue qui cassait les pieds d'un juge pour obtenir ce qu'elle voulait. Encore une fois, elle n'a pas lâché le morceau. Il a aussi parlé de 2 voisins qui demandent, là encore, avec persistance, qu'on leur vienne en aide, et de nuit. Ils demandent de l'aide, et de nuit. Ou encore de petits-enfants qui étaient persuadés que leur père finirait par répondre à leurs demandes. Toutes ces histoires nous montrent la même chose. Si la persévérance paye même à un niveau simplement humain, où nous devons, il faut bien le dire, bien souvent triompher de l'empathie ambiante, à plus forte raison devons-nous nous approcher de notre Père dont l'amour et la sagesse dépassent l'imagination. Notre Père veut nous exaucer. Ça, c'est la seule certitude qu'on ait. Et on apprend, je pense, plus du fait qu'on n'est pas exaucé que du fait qu'on l'est. Parce que chaque fois que vous n'êtes pas exaucé, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que j'ai raté là ? Ça me semblait légitime ce que j'ai demandé. Ben peut-être pas. En tout cas, ce n'est peut-être pas la priorité de Dieu pour votre vie. Donc prier pour plus que toute autre activité est l'expression concrète du fait que nous sommes invités à entretenir une relation avec Dieu. Autrement dit, si on ne prie pas, on n'a pas de relation avec Dieu. C'est comme si on ne parle pas entre amis, par exemple, c'est qu'on n'a pas de relation avec les amis. Et jusqu'à quel point c'est encore un ami. Alors, moi, j'aime mes parents. Si vous ne parlez jamais avec vos parents, vous pouvez vous illusionner, vous n'aimez pas vos parents. Ça n'est pas très compliqué, la vie, en fait. Quand c'est Dieu qui l'explique, ça n'est pas très compliqué du tout. Ça nous dérange, ce qu'il dit sur la vie, mais ce n'est pas compliqué. Je recite Dallas Willard, « Prier, je trouve cette phrase très belle aussi, c'est parler avec Dieu des choses que nous faisons ensemble. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais vous êtes supposé, depuis le jour de votre conversion, de vous occuper du royaume de Dieu. Plus de votre petite personne. Hein. Plus de vos affaires, mais de celles de Dieu. Nous avons à faire émerger, à faire venir le royaume de Dieu en partenariat avec lui. Il a décidé, alors qu'il peut tout faire tout seul, vous êtes bien au courant, il est Dieu, il a décidé de nous mêler au projet. Il a décidé d'avoir besoin de nous, même s'il a besoin de rien. Vous savez, il m'est arrivé de me retrouver au chevet de personnes sur le départ, hein, qui allaient mourir. C'est habituellement un moment où l'on exprime ses regrets, la plupart du temps, pas toujours, hein, vous seriez étonné, hein, mais parfois. Le regret d'avoir été omnubilé par le travail, le temps passé à gagner toujours plus d'argent, ou le regret d'avoir gâché son temps dans des choses futiles. Je n'ai jamais entendu personne regretter le temps qu'il a passé à prier. Sans doute parce que là où il y a beaucoup de prières, il y a aussi souvent, mais ça on ne s'en rend pas toujours compte, beaucoup d'amour. Il faut en fait aimer profondément les gens pour prier pour eux. Richard Foster, un ami de la Swillart d'ailleurs, c'est un théologien chrétien, il raconte qu'un jour qu'il était dans une grande surface avec son petit garçon, celui-ci s'est mis à hurler et à crier. À mon avis, ça rappelle les souvenirs à beaucoup de parents. Il n'y avait pas moyen de le calmer ou de le faire taire. Alors en désespoir de cause, Richard a pris son fils dans ses bras et lui a chanté une petite chanson improvisée dans laquelle il disait qu'il était heureux d'être le papa de ce merveilleux petit garçon. Et là, le petit s'est calmé, il s'est blotti dans les bras de son père. Lorsque celui-ci l'a déposé dans son siège sur la banquette arrière de la voiture, le petit a dit à Richard, « Chante-la encore, papa, ta belle chanson, chante-la encore. » Mes amis, la prière, c'est pareil. Hein. Avec simplicité de cœur, nous nous blottissons dans les bras de notre père, et le laissons nous chanter encore et encore son amour pour nous. Et je pense que si nous faisons confiance à Dieu, que nous rentrons véritablement dans son intimité, nous entendrons nous aussi lui dire et lui répéter tous les jours de notre vie, chante-la encore cette belle chanson, tu dis que tu m'aimes, Père. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.